Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC Running.
Geoffrey Charpie.
Il fait beau, il fait chaud. On est là au Stade Charletti sur cette magnifique piste bleue. Et puis on est en plein milieu du défi du record du monde RMC Garmin avec Paola Radcliffe, la légende britannique qui vient de terminer de courir. Et à mes côtés, j'ai l'honneur et la chance d'accueillir Rémi Duhautois. Salut Rémi.
Salut.
Ça va, tu vas bien?
Ouais, super. Ouais, je suis hyper content d'être là.
J'imagine, parce que cet endroit, cette piste, ça te rappelle des souvenirs. Tu vas nous expliquer ça dans un instant. Mais Rémi, est-ce que tu peux nous expliquer? Toi, tu es passionné de running, mais avant tout, tu travailles professionnellement à la Fédération Française de Natation.
Exactement. Ouais, je suis le directeur du haut niveau de la Fédération de Natation depuis 7 ans. Et là, on prépare activement les Jeux Olympiques de Paris 2024, forcément. Déjà depuis 7 ans, c'est le projet principal.
Il y a un petit peu de travail en ce moment, là, quand même.
Un petit peu. On est sur la finalisation. Normalement, on est plutôt bien prêt, ouais. Et on est plutôt sur de l'affinage plutôt que du travail de fond. Mais ouais, tout va bien et on est plutôt sur des bons rails. Mais ce qui nous amène ici, en effet, comme tu le disais, c'est plutôt le lien avec la tentative de record de 24 heures
bien
à Charletti.
Bien
et
sûr.
Ce qui est assez dingue, mais je te laisse peut-être annoncer, c'est le lien avec ce qui s'est passé il y a 2-3 mois.
Totalement, parce que là, les auditrices, auditeurs du podcast RMC Running, vous vous dites, ils sont en plein milieu d'une tentative de record du monde RMC Running et ils vont parler natation, ils vont parler plouf. Qu'est-ce qui leur passe par la tête? Mais non, c'est parce que toi, tu as tenté il y a 3 mois un record du monde totalement inédit, et je vais te laisser l'expliquer, qui prend beaucoup de similitudes avec ce qui se passe actuellement devant nous à Charletti.
Exactement. Alors c'est vrai que c'est improbable comme c'est la relation, parce que c'était aussi à Charletti et c'était aussi un record, tentative de record des 24 heures,
okay.
Mais pour le coup d'aviron indoor. Donc tout le monde ne connaît peut-être pas. C'est un ustensile qui se voit un petit peu dans les salles de musculation,
bien
on
sûr.
Voit des rameurs d'intérieur.
Beaucoup de crossfit avec des gens potentiellement qui vont ramer, qui vont essayer de faire le maximum.
Exactement.
De kilomètres.
Et en fait, à la fédération d'aviron, c'est aussi un ustensile qui est très utilisé parce que lorsqu'il y a des intempéries ou pendant l'hiver ou même en complément de l'entraînement, le rameur d'intérieur est quelque chose pour un rameur de haut niveau qui est très important. Et donc, c'est un ustensile qui est très utilisé. Et moi, il se trouve qu'avant de travailler pour la Fédération de Natation, moi, j'ai un historique de sportif de niveau en aviron.
D'accord.
Et donc, j'ai fait 5 ans en équipe de France d'aviron.
Mais pas en aviron indoor.
Non, il n'y a pas d'équipe de France d'aviron indoor.
D'accord,
à okay. proprement parler. C'est plutôt un ustensile de travail.
Okay.
C'est comme si on disait le tapis pour courir, tu vois.
Super.
Donc c'est vraiment un ustensile de travail, mais il y a des championnats de France spécifiques quand même pour ça, et justement qui se sont passés à Charletti le 2 et 3 février dernier.
Okay.
Et en fait, c'est à l'occasion de ce championnat de France d'aviron indoor où moi, ayant toujours des relations avec mes anciens collègues de la fédération d'aviron, j'ai vu avec eux pour dire tiens, ce record qui existe là des 24 heures d'aviron indoor, donc faire le plus possible de distance pendant 24 heures, est-ce que ce serait pas possible de le battre pendant ces championnats de France d'aviron indoor à Charletti?
Tu t'es dit, il y a un championnat de France, il y a peut-être moyen que j'aille me greffer et de tenter un record du monde.
Exactement. Et donc en parallèle du championnat de France indoor qui est un super événement, qui est génial. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller le voir, c'est super, c'est chaque année, la fédération d'aviron l'organise, c'est absolument génial. J'ai tenté ce record-là. Et donc pendant que tout le monde faisait les courses normales avec les distances normales qui existent, moi je faisais pendant un peu un mec bizarre sur le côté, pendant 24 heures qui lui ne s'arrêtait jamais. J'ai tenté ce record. Et il se trouve que j'ai battu le record de France.
Et déjà félicitations Rémi.
Ouais, c'était vraiment super, c'était génial. Alors j'ai été très accompagné, on pourra en revenir, j'ai été vraiment bien aidé. De un, par des sponsors et des partenaires, et de deux, par une équipe de staff qui était exceptionnelle, mais j'en parlerai plus tard.
D'accord. Forcément, on va revenir un petit peu sur ce qui t'a amené à tenter ce record, mais j'aimerais revenir sur le record lui-même. Est-ce que tu peux nous dire combien de kilomètres tu as parcouru? Et du coup, c'est la distance, le temps, c'était en 24 heures.
Exactement. Et c'est ça qui est génial par rapport au running. Moi, alors je suis pas le seul en France, on est beaucoup à être fan de running, j'adore
bien
ça.
Sûr.
Et c'est vrai que c'est assez sympa avec l'aviron indoor, parce que le record de France, comme le record du monde d'ailleurs, est très similaire, je crois, à quelques mètres près, ou centaines de mètres près.
Ah oui,
ouais, c'est vraiment très similaire.
Ouais,
exactement. Et il se trouve que moi, du coup, j'ai battu le record de France d'aviron indoor de 24 heures en faisant 295 km.
Waouh.
Et je crois que le record de France de running, c'est à peu près pareil,
c'est
au mètre près.
Exactement, on est un petit peu moins en dessous de 300.
Voilà, donc c'est assez marrant. Donc, pour que tout le monde comprenne, c'est assez simple, c'est 12 à l'heure.
D'accord.
C'est à peu près 12 à l'heure. Donc et du coup, on se rend compte que ce soit l'aviron ou que ce soit le running, pour donner un ordre d'idée à tout le monde, c'est à peu près le même ordre de vitesse. Donc 12 km/h pendant 24 heures, Bon, pour quelqu'un qui court très très bien, courir à 12 à l'heure, c'est pas très dur. Ouais. Mais tenir 24 heures, c'est un autre challenge. Et ben pour l'aviron indoor, c'est pareil. Ramer à 12 km/h, ça parle pas pour un vrai rameur, parce qu'on a plutôt d'autres unités en tête.
D'accord.
On parle de.
Peut-être en watts, en termes de puissance.
En watts ou en nombre de mètres aux 500 mètres plutôt.
Okay. C'est-à-dire que.
Enfin, non, le temps aux 500 mètres, pardon.
D'accord.
Donc si on met 2 minutes à faire 500 mètres, c'est le chiffre qui s'affiche sur l'écran du rameur Concept 2, qui est le plus connu au monde.
Okay.
Et qui est plutôt la référence pour les rameurs dans le monde entier. Mais n'empêche qu'en vitesse, ça correspond à peu près à 12 à l'heure. Donc ça donne une idée, voilà, ça donne une idée, et c'est marrant parce que c'est très similaire avec le running.
Bien sûr.
Et donc voilà, j'ai tenté ce record et je l'ai battu, donc c'était, ouais. C'était 292 et okay. J'ai fait 295.
Ah oui, est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit, parce que 292, 295, même si tu as eu le record, c'est quand même des distances qui sont assez proches,
ouais.
Je connais rien du tout en aviron, mais je me dis que c'est quand même assez proche, est-ce qu'à un moment donné dans ta tête tu t'es dit, j'y arriverai pas, c'est trop compliqué, je commence à faiblir, c'est trop dur.
C'est là où une épreuve de 24 heures... C'est génial,
ouais.
Mais et franchement, à vivre, c'est génial, à raconter, c'est exceptionnel. Moi, j'ai justement été accompagné, notamment par une entreprise qui s'appelle Synovate,
okay.
Qui est géniale, qui est sur la data. Et en fait, c'est très important parce que quand on est dans l'effort, tout seul sur son écran, sur une heure, deux heures, trois heures, allez, allons jusqu'à 4-5 heures, c'est possible d'être lucide. Passer les 5-6 heures, il y a un moment donné où c'est hyper difficile d'être cohérent, structuré, d'avoir des références et juste d'avoir un plan très précis, c'est assez difficile. Donc moi en fait j'ai été accompagné par eux, Synovate, pour m'aider à avoir, en gros ils m'ont construit une petite appli qui me transmettait okay. Sur un écran géant et où j'avais la visibilité du record de France et mes perfs à moi. Et j'avais un staff, et j'y reviendrai tout à l'heure, ouais. j'avais trois amis très proches qui étaient un staff rapproché, qui sont un staff de haut niveau, hein, qui ont des places haut niveau, de haut niveau dans des fédérations, qui m'accompagnaient pour me dire, là t'es en avance, t'es en retard, va pas trop vite, va pas trop fort, parce qu'à le gérer tout seul, ça sera assez présomptueux, ouais. Parce que ça paraît facile sur 5-6 heures, mais passer quelques ouais. heures, c'est hyper compliqué de se gérer, parce qu'il faut pas partir trop fort.
Bien sûr.
Faut pas non plus partir trop faible si on veut tenter de battre un corps. Si on veut juste le faire, si on veut faire 24 heures point barre juste pour dire je les ai ouais. fait, ça le va. C'est un peu comme un marathon. Si
bien
on
sûr.
Veut juste faire un marathon, bon, on peut le.
Et on envoie à chaque marathon des personnes qui sont parties trop vite et au final le fameux mur du 30e, du 32e, toi c'était peut-être un mur à la 21e heure ou 22e, je sais pas, où là forcément il y a la difficulté aussi physique, mais il y a la difficulté mentale.
Alors ça se voit. Alors je sais pas ce que tu fais comme sport, mais ça se voit que tu connais le sport.
On essaye de faire un petit peu de course à pied de temps en temps.
Ça se voit que tu connais le sport parce qu'en effet, le mental, c'est clairement ce qu'il y a de plus. Forcément, si on n'est pas entraîné, c'est compliqué.
Ouais.
Mais le mental, c'est clairement ce qui fait la différence et c'est clairement ce qui est très très dur. Moi, il se trouve que la barrière, je m'y attendais pas, mais ça a été plutôt un hasard. C'est assez basique, mais ça a été pile au milieu.
D'accord.
Ça a été à la 12e heure. Donc au bout de 11 heures d'effort, entre la 11e et la 12e heure, ça a été assez terrible. En plus j'avais fait le choix de commencer à 16h, donc j'ai commencé à 16h un vendredi et je termine à 16h le samedi. Donc au bout de 12h, j'étais en plein milieu de la nuit.
Ah ouais.
Et là c'était très 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 difficile, alors pour plein de choses, hein,
ouais.
Physiquement, au niveau alimentaire, au niveau hydratation, au niveau pas motivation, parce que ça je l'étais, mais voilà, il y a eu un moment très dur où il a fallu faire des choix sur comment on ralentit, on fait avec des gros guillemets, une sorte de pause pour calmer un peu le jeu, pour
bien
peut-être
sûr.
Reprendre plus fort plus tard, comment je m'alimente, ouais. comment je prends des vitamines à tel moment. Donc le staff, encore une fois, et là je vais peut-être profiter pour les nommer, ils étaient trois à m'accompagner,
ouais.
Et c'est génial parce qu'en fait les trois sont dans des fédérations avec des hauts postes de responsabilité. Il y en a un, c'est Sébastien Sadzak, c'est le DTN de la fédération de skateboard,
okay.
Enfin de roller, fédération
d'accord,
de roller,
okay.
Mais il se trouve qu'ils ont le skateboard qui est olympique.
D'accord.
Y a Charles Delval qui est le responsable de l'équipe de France paralympique d'aviron.
Ok, bien sûr, que tu ouais. connais parfaitement du coup.
Voilà. Exactement. Et il y a aussi Gaël Depierre, qui lui il s'occupe de l'équipe de France jeune d'aviron, donc que je connais aussi.
Ouais. Et alors on est interrompu par Alice Renaud, qui est la
bonjour,
responsable,
Alice.
Responsable communication chez nous. Alice Renaud, tu peux totalement prendre la chaise parce que... voilà, non, on va pas faire amener la sécurité, t'en fais pas Alice, tu fais partie de l'équipe RMC, donc tu as le droit de prendre la chaise, bien évidemment.
Surtout que les 24 heures sont longues, alors il faut
exactement.
Pouvoir s'asseoir.
Voilà, Alice, prends du repos, c'est important, et si tu veux dire un mot au micro, reviens.
Le repos fait partie de l'entraînement.
Bien sûr, bien évidemment. Et on n'y pense pas assez, ça. Parce qu'on pense que dans la course à pied, dans le football, dans le rugby, n'importe quoi, je suppose que c'est pareil dans l'aviron ou la natation, quand on se dit, j'ai pris un jour de repos, on a limite envie de s'insulter, parce qu'on se dit, pendant que moi je me repose, il y en a d'autres qui s'entraînent. Oui, très bien, mais au bout d'un moment, Il y a la lassitude physique, il y a le risque de blessure, et je pense que potentiellement ça t'est arrivé dans cette prépa aviron. Est-ce que tu t'es blessé? Comment tu t'es entraîné en fait jusqu'à te lancer dans ce défi fou?
En fait, je pense que vraiment que t'as un fond de sportif de niveau parce que tu connais vraiment
les ligaments croisés, Rémi.
Parce que t'as tout à fait raison, c'est un gros point, mais vraiment c'est peut-être le principal, c'est comment gérer sa forme physique et justement ses temps de repos. Moi, malheureusement, j'ai pas pu m'entraîner énormément. J'ai dû switcher avec ma vie professionnelle. J'ai pas pu avoir une vraie vie de sportif de haut niveau pour préparer ça. Mais du coup, la manière dont j'ai préparé ça, je me suis fait accompagner par quelqu'un qui est professionnel sur la gestion du sommeil. Et le lien avec le repos, il est capital.
Ouais.
Surtout sur des épreuves d'extra longue durée comme ça. Parce que j'avais fait un Ironman il y a quelques années. À côté, je parle pas de la performance. Toutes les performances sont exceptionnelles, même si on fait un 50 mètres nage libre.
Bien sûr.
En natation, c'est très court, ça reste exceptionnel. Mais quand on est sur du très, très, très long comme ça, ça reste très particulier à gérer. Et en l'occurrence, ses repos, son sommeil et justement ces temps de non-entraînement sont à prendre en compte et sont capitaux. Donc moi, il se trouve que dans mon passé d'entraîneur, j'étais habitué à structurer ça, et en aviron, c'est vrai qu'on est très habitué à ça, à savoir s'entraîner très fort sur des moments et se reposer à d'autres. Voilà, sur les micro et macro cycles d'entraînement, c'est quelque chose où en aviron, on est habitué à ça. Mm-hmm. Mais par contre, sur le sommeil, c'est quelque chose sur lequel j'étais pas forcément habitué, parce que là, quand on gère 24 heures,
bien sûr,
il va se passer comme une nuit entre temps.
Est-ce que tu t'es entraîné à faire une nuit blanche?
Jamais.
Bête, jamais.
Jamais. Je me suis jamais entraîné à ça, et il ne faut surtout pas, parce qu'il faut garder quand même de l'énergie. Par contre, ce sur quoi il faut s'entraîner, c'est justement avoir une régularité. Et ça, c'est vraiment ça, d'ailleurs, c'est génial pour nos auditeurs. Je pense que c'est bien qu'ils entendent ça. C'est que même pour une forme physique et même pour son bien-être, c'est hyper important. Nous, on sait aujourd'hui pour nos sportifs de niveau qu'on gère, mais aujourd'hui, je les gère pour la natation.
Bien sûr.
La régularité du sommeil et la qualité du sommeil, on n'imagine pas aujourd'hui comme c'est prépondérant pour, il se trouve, le sport de haut niveau, même pour la santé au sens large. Donc, c'est des choses basiques comme se coucher à une heure régulière et avoir des heures de sommeil régulières. C'est-à-dire que souvent, on nous bassine sur le nombre d'heures de sommeil avant, après, minuit. En fait, c'est pas tant ça qui est important. Ce qui est important, c'est une régularité de sommeil. Alors, c'est sûr, si on dort régulièrement 2 heures par nuit, c'est pas assez.
C'est pas donc, fou, effectivement.
Donc, il faut aussi une quantité. Mais ce qui est très important, c'est la régularité. Donc, moi, je me suis attaché, surtout sur mon dernier mois avant la tentative de record des 24 heures, à avoir une régularité et toujours éteindre les écrans.
Ouais.
Ça, c'est pas facile dans le monde actuel.
2 heures avant? 2 heures avant le sommeil?
J'arrêtais une heure. Donc j'arrêtais mes écrans tout le temps à 22h, tout le temps, pour me coucher réellement à 23h.
Ouais.
Et alors après, chacun peut avoir une hygiène différente de vie, mais en tout cas, cette régularité-là donne une sorte de sérénité à son corps et donne une forme physique qui est assez notable, dont moi je me suis rendu compte en 2 semaines, c'était incroyable.
Ouais.
De nos jours, c'est assez dur de le faire parce qu'on est quand même tout
bouffé
par les écrans. C'est pas facile à faire, donc c'est une sorte d'effort à faire, mais qui est aussi importante que l'entraînement, réellement.
Mais il me semble, et toi qui travailles à la Fédération Française de Haut Niveau en tant que directeur du haut niveau, il me semble que c'est Léon Marchand qui avait fait une conférence de presse après une compétition où son téléphone avait sonné en disant « il faut que tu ailles à la sieste ». Je crois que c'était ça, et tu peux m'arrêter si je m'en trompe, mais j'avais trouvé cette image folle parce que je m'étais dit « Ok, le gars sort d'une compétition et il est déjà dans l'après, le repos, il faut que je me repose ». C'est ça que vous essayez d'inculquer aujourd'hui à vos nageurs?
Exactement. Nous, tous nos nageurs prioritaires, alors à la FFN, on s'occupe de la natation et aussi de 4 sports. C'est le water polo, le plongeon, la natation artistique et l'eau libre.
D'accord.
Donc sur ces 5 sports-là, donc aussi la natation, tous nos sportifs qui ont été prioritaires pour préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024, On a tous voulu suivre de manière précise justement ces questions-là d'hygiène de vie. Et donc en l'occurrence, pour certains, il y en a certains qui d'ailleurs ont une bague Oura, c'est une marque qui permet de suivre à distance la qualité de tout, de la fréquence cardiaque, du HRV.
Parce que nous, dans le podcast RMC Running avec Benoît Boutron et Yohan Durand, on parle souvent de la montre, mais la bague, c'est la première fois qu'on entend parler. Ouais.
C'est les mêmes informations qu'on peut avoir sur une montre.
D'accord.
De différentes marques, mais en tout cas, avec une bague, c'est un peu moins prenant qu'une montre,
ouais,
parce qu'on ne l'enlève pas pendant la nuit,
c'est plus
facile à garder. Et donc, nous, on a ça dans notre département optimisation de la performance, qui est géré par un cadre super de la Fédération de natation qui s'appelle Robin Plat. On gère ça, et pour tous nos sportifs prioritaires, on inculque ce suivi-là. Alors, il faut qu'ils soient d'accord avec ça, mais pour qu'ils aient soit cette bague, soit d'autres éléments, et pour qu'on puisse les aider à suivre justement cette qualité-là de vie,
bien sûr,
en parallèle de l'entraînement. S'entraîner, c'est très bien, ouais, se reposer, c'est très bien, mais il y a en parallèle la qualité de vie,
bien sûr,
juste à quelle heure je me couche, à quelle heure je me repose. Et en fait, on n'imagine pas à quel point c'est prépondérant. Et les sportifs qui très souvent ont réussi, même dans les années passées où c'était moins suivi, en fait, avaient cette hygiène de vie. l'avaient et s'en rendaient peut-être pas compte.
Bien sûr.
Que c'était ce qui était aussi un des éléments prépondérants et qui les différenciait des autres, mais ça en faisait partie.
Là, on parle de l'entraînement, ce qui t'a amené à la performance. J'aimerais qu'on revienne sur la performance en elle-même avec ce, avec ce défi foot 24 heures à ramer en aviron. Comment tu t'es alimenté?
Alors,
et surtout, est-ce que tu avais le droit en fait?
Hyper important, j'avais le droit bien entendu. Ouais. Sinon, ça serait comme une torture.
Bien sûr.
Alors, j'ai eu la chance, encore une fois, c'est un de mes autres sponsors. J'ai été alimenté par la société STC Nutrition.
D'accord.
Donc, des compléments qui sont géniaux. Et donc, ils m'ont accompagné pour me conseiller sur quels compléments alimentaires étaient les mieux à prendre pendant ces 24 heures-là. Donc, c'est justement, c'est pas pareil que si on fait un effort de 4 heures. C'est des aliments qui sont plus facilement bien assimilables, qui peuvent se prendre régulièrement.
Peut-être avec des boissons d'efforts qu'on peut retrouver dans, dans les boissons de running, peut-être avec des électrolytes.
Exactement,
ouais, c'est ça.
Exactement,
okay.
C'est ça. Donc, et moi, j'ai même commencé 48 heures avant. C'est-à-dire que 48 heures avant, j'avais eu une boisson spécialisée qui m'avait conseillé, c'était ses nutritions, à prendre une gorgée toutes les demi-heures, qui allait favoriser aussi l'absorption justement de mon corps pendant ces 24 heures-là,
okay.
De tout ce qui était justement... notamment apport d'eau, parce que l'apport d'eau c'est hyper important, mais le corps a un maximum qui n'est pas tolérable. C'est-à-dire qu'on a beau se rendre compte que l'eau est très importante et on va être... les premières fois où je me suis entraîné sur des distances longues, 4 heures, 6 heures, j'ai eu hyper mal à la tête pour un manque d'eau. Parce qu'en fait, si on s'alimente mal en eau et qu'on boit trop au bout d'une demi-heure parce qu'on a soif, le corps ne peut pas absorber cette quantité d'eau.
Donc tu fais quoi? T'essayes de segmenter, de fractionner
exactement.
L'eau toutes les 10 minutes par exemple?
Et même toutes les 5.
Toutes les 5?
Je buvais exactement 2 gorgées d'eau toutes les 5 minutes. Pendant 24 heures, j'ai jamais dérogé à ça.
Ah ouais, c'est très carré comme organisation.
Exactement. 2 gorgées, c'est pas beaucoup, c'est rien 2 gorgées. Hein. Mais toutes les 5 minutes. Ça m'aidait d'ailleurs parce que ça me rythmait. C'est qu'au bout de 5 minutes, j'étais très content, je regardais mon chrono, je me disais, oh purée, dans 2 minutes, je bois mes 2 gorgées d'eau.
Allez,
c'est
dans
trop
une minute,
bien.
J'ai le droit à boire un petit peu.
Et là, j'étais trop content. Hop, je prenais les 2 petites gorgées d'eau. C'était génial, c'était ma petite bouffée d'oxygène, entre guillemets, c'était de l'eau. Mais du coup, c'est vrai que ça me rythmait. Mais avec les conseils que j'avais eu de leur part, ça m'avait justement aidé parce que boire trop, si j'avais bu justement 5-6 gorgées toutes les 5 minutes, j'aurais eu des maux de ventre. Et le corps ne peut pas accepter ça, c'est impossible.
Okay.
Au-delà de, je crois qu'il y a un maximum qui est vers les 750 ou 800 millilitres par heure.
D'accord.
Le corps ne peut de toute façon pas absorber ça. Alors il y a peut-être quelques exceptions sur la Terre qui peuvent accepter 50 ou 100 millilitres de plus, mais globalement l'être humain ne peut pas accepter plus. Donc c'est là où il faut se gérer, il faut se dire il faut que j'en prenne régulièrement, mais pas beaucoup. Bon, ceux qui font des running soit de marathon soit d'ultra trail, ils connaissent très bien ça, mais n'empêche que c'est à prendre en compte parce qu'il ne faut pas attendre d'avoir soif, c'est basique, il faut boire régulièrement et le gérer. Mais sur la nutrition, c'était un peu pareil, j'ai mangé régulièrement des bars, tout ce qui est complément un peu
bien
alimentaire,
sûr, ouais.
Ce que STC Nutrition faisait
des
aussi.
Des gommes, des gels peut-être t'as pris,
exactement,
ouais,
des gels. Alors les gels, c'était génial, c'était contre les crampes.
Ok.
Alors là, sur le rameur, là, je vous laisse imaginer ce que ça peut être parce que...
Mais en fait, j'ai pas envie d'imaginer.
Quand je vois quelqu'un courir, là je les vois, là, je vois un DR Corman là, qui est en train de courir, qui passe le relais d'ailleurs.
Avec une transmission de relais, c'est bon, le témoin n'est pas encore tombé, donc on est en plein milieu de l'après-midi au stade Charletti. À l'heure où on enregistre ce podcast, il est 16h30, le record est toujours en vie.
Toujours en vie.
C'est bon, on est bien.
Moi ça me faisait presque rêver d'aller courir.
Ouais.
Parce qu'en fait, sur un siège, à faire des allers-retours, sur
bien
un
sûr.
Rameur, au bout d'un moment, on en a marre, on est presque sclérosé. C'est très difficile, psychologiquement ok, mais même d'un point de vue articulaire, on a presque envie de bouger, d'aller faire un tour en courant ou même en marchant, ou peu importe, mais on a envie de faire autre chose, c'est assez dur. Et en fait, justement, ces gels qui s'appellent un peu anti-crampes, que STC Nutrition nous me proposait, je me demandais si c'était un peu de la pub. En fait, ça marche quand même pas mal, parce que quand j'avais des coups de moins bien, je les prenais, et ça marche quand même assez bien. Alors, je pense que c'est pas suffisant si on prend que ça quand on n'est pas entraîné.
Bien sûr,
c'est pas magique, c'est pas la potion magique de l'Astérix et Obélix. Hein.
Mais ça va pas nous faire nous courir à 23 km/h
exactement.
Ou toi te faire ramer à 22 km/h d'un coup.
Exactement. Mais par contre, pour éviter d'être à la limite de craquer, c'est des choses qui sont quand même assez appréciables. Il faut encore une fois, faut pas que ça soit la seule chose. Si on s'alimente que de ça, c'est pas suffisant et justement c'est même mauvais. Il faut que ça soit plutôt un complément pour les moments de difficulté quand on sent que articulairement on n'est pas bien ou que on sent que la crampe est pas très loin.
T'en as parlé tout à l'heure de tes fameux entraînements longs. T'as dit que t'avais fait des entraînements longs de 4 heures, de 6 heures. Je me dis, est-ce que c'est pas un petit peu court dans un record qui va durer 24 heures? Est-ce que t'as allongé les sorties? Ou est-ce que ton maximum vraiment c'était 6 heures d'aviron de ramage? Je sais même pas si ça se dit.
De rame.
De rame, ouais, c'est bien.
Alors, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup augmenté les distances parce qu'un entraînement d'aviron, c'est très rarement plus d'une heure et demie. Une heure et demie d'aviron, encore une fois, c'est un peu comparable à la course à pied.
Et toi, t'en as fait 24 heures.
Ouais. Encore une fois, c'est comparable à la course à pied. Donc, plus d'une heure et demie d'aviron, c'est quand même assez rare. Donc moi j'ai volontairement changé le rythme d'entraînement normal d'un rameur, parce que c'est pas une épreuve qui est habituelle. J'ai fait beaucoup plus de 2 heures, de 3 heures, je suis allé jusqu'à 4 heures. Il y a une fois ou deux où j'ai fait 6 heures et je m'étais mis, ça c'est aussi dans notre routine de rameur, on a un monument mondial de l'aviron qui a inculqué un rythme d'entraînement dans l'aviron français qui s'appelle Ebrard Mundt.
D'accord.
C'est Ebrard Mundt, là vous ça vous dit rien,
mais pas du tout.
Pour n'importe quel rameur, faut imaginer ce que ça représente.
C'est le Eliud Kipchoge du running.
Ouais, exactement. C'est vraiment
c'est encore plus fort.
C'est un Graal. C'est vraiment un Graal. Donc c'est vraiment une star de l'aviron mondial qui est arrivée dans les années fin des années 80 dans l'aviron français et qui a inculqué un nouveau programme d'entraînement. Donc moi j'ai baigné dans ce programme d'entraînement là. C'est grâce à ça que j'ai eu des résultats en aviron, que j'ai fait champion du monde junior d'aviron, okay. etc. Et en fait grâce à lui j'ai gardé cette organisation de l'entraînement et du coup j'ai calqué mon programme là-dessus. Et mon programme là-dessus ça a été de se dire un mois avant l'épreuve, donc là fin janvier, parce que début janvier pardon, parce que mon épreuve était début février.
C'est ça.
Donc pile un mois avant, donc début janvier. Ce qui n'est pas top après les fêtes, mais ouais. Début janvier, je me préparais une épreuve test qui est quasiment identique à la vraie compète. Et en avion, on fait beaucoup ça, c'est-à-dire qu'il y a une épreuve type qui ressemble à la vraie compète référence et qu'on fait à peu près un mois avant et qui est l'épreuve de référence.
Okay.
Et là, mon choix, moi, ça n'a pas été de faire 24 heures, parce que déjà, j'étais pas avec mon staff, les trois personnes que je disais tout à l'heure. J'étais pas avec mes sponsors qu'avec tous les compléments alimentaires, le suivi informatique à côté pour savoir où j'en étais. J'étais tout seul, chez moi, comme un con. et donc là, j'ai choisi de faire 12 heures.
Okay.
Et c'est le maximum que j'ai fait. J'ai même jamais fait plus que 6 heures au-delà de ce moment-là. La seule fois où j'ai fait une très longue distance, c'est 12 heures. Donc je me suis levé un matin, j'ai commencé à 6 heures du mat pour terminer à 18 heures le soir. Et tout seul chez moi, j'ai fait donc 12 heures d'aviron indoor. Et d'ailleurs, c'est le pire souvenir de ma vie.
Ah ouais.
Pire que même les 24 heures. Et justement,
les 24 heures, il y avait un record en bout. Il y avait un truc à aller chercher. Là, t'étais tout seul chez toi à 6 heures du matin.
Exactement.
C'est compliqué de se motiver devant Debout les Zouzous ou Gulli, je sais pas.
Ouais, devant rien du tout.
Ouais, devant rien du tout.
Parce que les enfants faisaient dodo. Donc
ouais, bien sûr. Ouais.
Fallait pas que je fasse de bruit. C'était un week-end. Et non, c'était assez dur. C'était même horrible. Mais par contre, voilà, toujours est-il que dans ma stratégie de fonctionnement, ça a été ça. Moi, j'ai voulu voir ce que ça faisait de faire 12 heures. J'ai vu que c'était très dur. D'ailleurs, justement, je suis parti plus fort.
Okay.
Je suis parti sur les bases du record du monde.
Okay.
Parce que moi, j'ai uniquement fait le record de France.
Ouais. Wow. Petit joueur. Ouais.
Je suis parti sur les bases du record du monde pendant 6 heures.
Le record du monde qui est à combien?
Alors, c'est à 320 km.
Ouf.
Donc, il met quand même quasiment un peu plus de 20 km dans la vue. Et ça va vraiment beaucoup plus vite.
Okay.
Quand même. C'est une vraie différence.
Mais t'as le record de France, faut pas l'oublier. Et surtout, il faut te féliciter.
et justement, pendant ce test des 12 heures, j'ai voulu voir. Et je suis parti sur ces bases du record du monde. Et en fait, au bout de 6-7 heures, j'ai complètement explosé. J'ai vu mes pulses monter à plus de 140, 150, okay. Ce qui est impossible si on veut dire 24
heures.
Et si, il faut rester à des fréquences qui sont basses, qui sont maximum 130, il faut rester à 120, il faut avoir l'impression d'être très facile en fait. Sinon, c'est pas possible de tenir 24 heures. Le corps ne pourra de toute façon pas tenir.
C'était limite une allure pour toi d'endurance fondamentale. Pour ceux qui nous écoutent en running, 12 km/h, pour toi, c'était footing tranquille.
Exactement. Si on veut tenir 24 heures. J'ai envie de dire, au bout de 4 heures, on parle, on est facile, on dit mais qu'est-ce que je fais là, je suis tranquille. Et même plus en fait, il faut au bout de 6, 7, 8 heures être encore très bien. C'est impossible de se dire c'est dur, mais je vais tenir au mental ou je sais pas quoi.
Ouais.
C'est, sur des épreuves aussi longues que ça, c'est impossible. Il faut avoir une marge de manœuvre. Et là-dessus, il y a quelqu'un qui est spécialiste des très longues distances à la FFN,
d'accord.
à la Fédération Française de Natation, qui s'appelle Stéphane Leca.
D'accord, bien sûr.
Qui s'occupe de l'eau libre.
Bien sûr. Il a un peu de travail en ce moment avec la scène, tout ça. On va
pas mal,
y revenir,
pas
mais
pas
il a un peu pris.
Ouais, il arrive très très bien.
Okay.
Et lui m'a conseillé là-dessus. Il m'a dit. Pareil, sur du très très long comme ça, on n'est pas sur du marathon ou du même de l'Ironman, là on est sur du encore deux fois plus long qu'un Ironman, il faut toujours avoir une marge de manœuvre énorme.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il faut être, très facile. Donc si le record, pour tenir la moyenne, on est déjà à un niveau de rupture qui est limite, il ne faut pas se lancer là-dedans, c'est pas possible. Il faut tenir à une allure qui, pour soi, est très facile, où on arrive non seulement à parler, mais même à rigoler. Donc moi, c'est vrai que pendant mes 24 heures d'argot, j'étais hyper bien,
ouais.
J'étais à une vitesse, à une allure qui me permettait de parler. Il y avait des gens qui passaient là dans Charletti qui faisaient leur tentative, qui faisaient leur compétition d'aviron indoor. qui me parlaient, certains que je connaissais, d'anciens champions que je connaissais avec qui j'étais en équipe de France.
Ça aide un petit peu à passer le temps, j'imagine.
Ça m'a super aidé. S'ils avaient fait tout ça, ça aurait été beaucoup plus dur. Parce que là, j'ai notamment, il y a Dorian Mortelette qui est double médaille olympique en aviron. Et avec qui j'avais fait champion du monde junior en 2001, donc c'est forcément un ami. Il est passé parce qu'il faisait la compétition et donc il m'a, pareil, voilà, il me croise, donc c'est l'occasion de discuter. Alors, t'en es où? Comment c'est? Parce que tous ne connaissent pas cette épreuve-là. Elle est assez rarement tentée.
Elle est totalement atypique.
Voilà, exactement. Et donc c'est vrai que si on est trop dur et qu'on est en train de galérer pour tenir le rythme et qu'on peut pas parler, clairement c'est infaisable de voir ce genre d'épreuve. Il faut être à un niveau acceptable pour
toi. Bien sûr. Rémi, ça a été un vrai plaisir, mais j'ai encore deux questions pour toi pour terminer ce podcast. Tu as obtenu ce record de France en février, il y a 3 mois là. Est-ce que tu as des nouveaux objectifs désormais? Le record du monde, trop difficile à aller titiller? Il y a peut-être un record d'Europe à aller chercher?
Alors malheureusement, le record du monde il est tenu par un Européen.
D'accord.
Donc le record d'Europe est aussi dur.
Ok.
Je pense que je suis un peu trop vieux pour. Ouais, je pense. Ouais, parce que ma carrière de sportif au niveau, elle est quand même assez loin. Et j'ai réussi ce record parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui sont encore lancés. Objectivement, je pense qu'il y a quelques champions d'aviron français. Si jamais ça leur vient à l'idée et qu'ils se préparent. Parce que c'est quand même assez spécifique.
Bien sûr.
Je pense qu'ils pourront me battre et assez facilement, même j'en suis persuadé, ils y arriveront. Mais du coup, moi, le record du monde, pour moi, il est, je pense, inatteignable. Et en plus, c'est quand même assez, c'est quand même assez prenant dans les individus. Moi,
bien sûr.
J'ai 3 enfants.
Ouais, bien sûr.
J'ai un boulot prenant. Et là, je l'ai fait, entre guillemets, avec mes qualités naturelles et d'ancien rameur. Je me suis dit que ça avait l'air faisable. Je l'ai calculé, je l'ai évalué. Je pensais que c'était faisable. Ça m'a donné raison.
Ça l'a fait.
J'ai réussi. Mais faire mieux, objectivement, aujourd'hui. Parce que c'est important de se fixer des objectifs. C'est important aussi de se fixer des objectifs réalistes. Donc moi aujourd'hui je me suis fixé cet objectif.
C'est très bon.
Je pense qu'il était faisable, j'ai réussi. Après il faut être réaliste. Faire mieux aujourd'hui c'est de 1 plus de mon âge et de 2 pas de mes capacités. Donc je pense que je vais rester là-dessus.
Il y avait plein de similitudes entre le record de France que tu as obtenu du coup en aviron et le record du monde RMC Garmin qui est en train de se dérouler sous nos yeux à Charletti. Et vraiment ça a été un vrai plaisir de t'avoir avec nous sur ce podcast. Mais je suis obligé de t'interroger. Dans un peu plus de 40 jours, il y a les Jeux Olympiques qui s'ouvrent. Tu es directeur du haut niveau à la Fédération Française de Natation. Les équipes françaises de natation aux Jeux Olympiques, c'est toujours un très très pourvoyeur de médailles. Mais surtout cette année, il y a un grand gabarit qu'on attend, c'est Léon Marchand, sans entrer forcément dans les détails, parce qu'on n'est pas là pour parler de lui. Mais est-ce qu'il va bien? J'ai vu que récemment il avait fait des courses aux États-Unis où il ne se sentait pas excessivement encore en jambes. Il avait fait des erreurs, et j'en ai notamment parlé avec Julien Richard, qui est journaliste spécialisé en natation à RMC, qui m'a dit: regarde, sa dernière coulée, elle n'est pas bonne. Est-ce qu'il peut encore progresser, et jusqu'à quel point il peut nous surprendre sur ces Jeux Olympiques?
Alors Léon va très bien.
Ok.
Ouais, il va très bien, il n'y a pas de problème. On évite à la Fédération Française de Natation, on évite de trop parler de potentiel de médailles, de nombre de médailles, parce qu'on sait que c'est toujours casse-gueule et qu'il faut aussi laisser les sportifs dans un état serein. Léon, alors tu parlais de grand gabarit. C'est pas un énorme gabarit. Notre gros gabarit, c'est Florent Manodou.
Ah oui, oui. Là clairement, on est sur quelque chose de différent.
Ou Maxime Grousset, qui est aussi un grand gabarit. Et on en a d'autres, comme Johan Endoy-Brouard.
Bien sûr.
Mais Léon Marchand, c'est un nage exceptionnel et qui fonctionne en ce moment magnifiquement bien. Et on l'accompagne pour que ça perdure jusqu'aux Jeux Olympiques. Là, je suis allé le voir il y a quelques temps sur son dernier site d'entraînement, parce qu'il avait déménagé à la fin aux États-Unis. Je suis allé voir aux États-Unis.
Il est parti dans le Texas, là.
Exactement.
C'est ça,
Donc je suis allé le voir au Texas pour voir son nouveau site d'entraînement, comment ça se passait.
Ok.
Ça se passait très très bien, et on a fait en sorte qu'il soit dans de bonnes conditions, qu'il soit logé comme il faut, parce qu'il avait quand même il était entre deux, il était en cours de déménagement.
Ok.
Donc tout va très très bien. Il va bien, il s'entraîne bien, il est en forme. Et là, il est revenu en France, tout va bien. Et donc, il prépare les championnats de France pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. Parce que pour tout le monde, comme pour lui, comme pour n'importe quel nageur sur qui on compte, parce qu'il y en a plein d'autres sur qui on compte,
bien sûr.
Tout se joue au championnat de France à Chartres,
ouais.
Entre le 16 et le 20 juin. Là. Ouais. Et donc là, il va falloir qu'ils fassent tous, un temps minimum, et deux, être dans les 2 meilleurs français.
Ok. Parce que là, tu es en train de me dire que Léon Marchand, qu'on n'arrête pas d'encenser depuis plusieurs années sur les Jeux Olympiques de Paris 2024, il n'a pas encore sa place pour les Jeux. Oui, parce qu'il va devoir aller faire des temps en Chartres.
Personne ne l'a.
Non, c'est fou ce que tu me dis là.
Ouais, c'est fou.
C'est incroyable, c'est fou. Ça.
Et alors, un truc encore plus fou, c'est que ça lui fait pas du tout peur.
Hein. Oh, non, non, non,
non, non.
Je pense qu'on part sur des bases de chrono, de minima qui sont totalement réalisables pour lui.
Voilà, toute proportion gardée. Il y a des nageurs pour lesquels le chrono de qualification, il est exceptionnel. Il va falloir qu'ils fassent leur meilleure performance. Et on espère tous qu'ils vont les faire, qu'on va avoir une énorme délégation. Et pour certains, dont Léon, mais c'est pas le seul, hein. Le temps à faire est un temps largement faisable. Qui font, j'ai pas envie de dire qu'ils le font à chaque entraînement,
ouais,
mais
sûr.
Ils le font, ils le font entre guillemets sans problème. Donc il y en a pour qui c'est pas une énorme pression, ouais. Mais c'en est toujours une. Et nous, c'est important. Avec Jaco Verharen, qui est le directeur de l'équipe de France de natation, lui, il a fixé aussi comme objectif que à cette période-là, à 5 semaines des Jeux Olympiques, il est important d'avoir une deadline et de dire ce jour-là, il faut faire un temps précis. Et il faut être bon. Ça a fait ses preuves dans plein d'autres pays même aussi. Donc c'est la règle pour tout le monde, mais il n'y a pas un stress énorme. Il le fera et il n'y aura pas de problème. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, il va très bien et on va faire en sorte qu'il aille bien jusqu'au bout pour satisfaire tout le monde et satisfaire surtout lui-même et ses objectifs.
Bien sûr, bien évidemment. Et ben c'est génial. Merci infiniment Rémi de t'être déplacé au Stade Charletti ici pour la tentative de record du monde RMC Garmin des 24 heures en relais mixte. Merci infiniment. Et puis on souhaite le meilleur à la Fédération Française de Natation et à la Fédération Française d'Aviron aussi,
exactement.
Tes anciens collègues. Et puis t'es le bienvenu quand tu veux. Si tu veux reparler running, aviron, natation, ce que tu veux, t'es le bienvenu avec Benoît et Johan. Merci
plaisir.
Rémi.
Et j'ai vu que RMC, il y avait marqué record du monde de course.
Ouais.
Ça tombe bien.
Ça fait le logo des
RMC. Donc pour la prochaine fois où quelqu'un le tente, ça pourrait être record du monde sur rameur concept 2. Parce que le C, c'est le début de concept 2, c'est la marque du rameur d'aviron indoor.
Allez, c'est bon, du Rémi.
Donc
je te serre la main, c'est fait.
2.
Parfait. Je vais en parler à la direction de suite. Merci infiniment, Rémi.
Avec
à
plaisir.
Bientôt. Salut.
Ciao.